La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Un mot occupe aujourd'hui encore les grands titres de la presse indienne. Alors ce mot, c'est le nom d'Ayodhya.
Ayodhya, oui, c'est une ville du nord de l'Inde, état de l'Uttar Pradesh, sur un affluent du Gange. Et son nom renvoie à un conflit qui enflamme les passions en Inde depuis près de 30 ans. Une saga qui a dessiné les contours de l'Inde moderne, écrit même Prashant Jha dans les colonnes de l'Hindustan Times. Car Ayodhya, c'est avant tout dans l'imaginaire collectif une cité antique, disputée depuis des décennies donc, par deux religions, l'islam et l'hindouisme. Sur les bords de la rivière s'élevait depuis 1528 et jusqu'en 1992, l'une des plus grandes et des plus anciennes mosquées d'Inde, celle de Babri. Mais elle a été détruite, cette mosquée, le 6 décembre 1992 par une foule de nationalistes hindous. Eux revendiquent le lieu comme endroit où serait né leur très populaire dieu Ram. Les affrontements interreligieux qui y suivirent à l'époque firent plus de 2000 morts et le contentieux, lit-on encore dans The Hindustan Times, n'a jamais vraiment été réglé depuis. Il a été régulièrement réactivé au gré des intérêts politiques des deux communautés, mais la blessure restait bien présente en profondeur.
Et si l'on reparle aujourd'hui de cela, c'est parce que la Cour suprême indienne a rendu samedi cette décision définitive sur ce conflit.
Un verdict dont l'Indian Express n'a pas fini trois jours plus tard d'analyser la portée. Les juges, d'un côté, reconnaissent le caractère illégal de la destruction en 1992 de la mosquée de Babri. Ils accordent, en vertu de l'article 142 de la Constitution indienne, un terrain de 2 hectares à la communauté musulmane pour qu'elle y construise une mosquée. Ça pourrait ressembler à une victoire, une juste réparation 30 ans après les faits, mais c'est en fait tout le contraire selon le magazine Dawn, car le terrain dévolu aux musulmans se trouve en dehors de l'aire sacrée disputée par les deux confessions, et parce que la possession de cette aire-là est justement dévolue aux seuls hindous, à qui la Cour suprême donne son feu vert pour y construire le grand temple dont ils rêvent depuis 30 ans pour vénérer le dieu Ram. Les juges ont clairement posé par leur décision que c'était aux musulmans de justifier de leur présence sur place et que, faute de preuves, le bénéfice du doute ou de la controverse historique devait bénéficier aux seuls hindous. C'est ce que résume Shruti Sagar Yamunan pour donc le magazine Dawn. Pour Hilal Ahmed, cette fois sur le site d'info et d'analyse The Print, les 5 juges suprêmes samedi ont entériné l'idée que la communauté hindoue est la communauté dominante en Inde et que les musulmans, à travers l'histoire, n'y ont toujours été et n'y seront toujours que des outsiders, des étrangers que l'on peut marginaliser.
En tout cas, difficile, Camille, de ne pas voir de lien entre cette décision et la mainmise du nationaliste hindou Narendra Modi sur le pouvoir politique en Inde.
Narendra Modi, qui, note The Hindu, a abondamment salué samedi la clairvoyance, l'équilibre de cette décision historique attendue donc depuis 30 ans. Sans même donner le temps aux intéressés de réagir, il s'est félicité de l'unanimité en faveur de ce verdict, preuve selon lui que l'Inde est forte et unie, tournée comme un seul homme vers l'aube radieuse qui s'ouvre à elle à présent que le conflit interreligieux est censément soldé. Mais ce n'est pas l'avis de tout le monde, vous vous en doutez. The Indian Express cite par exemple Tushar Gandhi, arrière-petit-fils du Mahatma Gandhi, selon qui tout cela c'est de la politique et ce n'est en rien de la justice. Tushar Gandhi dénonce la peste du suprémacisme hindou incarné par Modi. Il s'inquiète d'un climat étouffant d'intolérance et de nationalisme exacerbé. Si l'assassin de mon arrière-grand-père était jugé aujourd'hui, on ferait de lui un héros patriotique, résume le descendant de Gandhi. Dans le Washington Post, enfin, on trouve une tribune publiée par l'éditorialiste indienne Rana Ayoub, qui dit sa stupeur en tant que musulmane après la décision de la Cour suprême samedi. Elle rappelle à quel point sa famille et sa communauté ont appris depuis les années 90 à vivre sous la menace croissante du rejet de la haine attisée par le BJP, le parti de droite de Narendra Modi. Samedi, après le verdict, Rana Ayoub a vu parader sur toutes les chaînes de télévision indienne, cela même qui avait conduit les pogroms anti-musulmans de 1992. Le message envoyé aux 200 millions de musulmans indiens est clair et assourdissant. Vous êtes des citoyens de seconde classe, obligés de renoncer à votre identité et à votre patrimoine, orphelins dans votre propre pays.
1001 recettes pour manipuler une élection, c'est une enquête à Madagascar. Elle est à lire dans le New York Times.
Et ça se passe donc à Tananarive, la capitale malgache, pendant la dernière présidentielle, il y a un peu moins d'un an. Les journalistes du Times, Michael Schwirtz et Gaël Borgia, y ont suivi des visiteurs pas du tout discrets. Des citoyens russes arrivaient là avec des sacs à dos pleins d'argent liquide, des affiches électorales chatoyantes et des méthodes sans scrupules pour tenter de faire gagner le président sortant, Héré Ratsonarmampian. Depuis, les chambres qu'ils louaient dans un village vacances, ils ont recruté, ces Russes, des étudiants locaux pour rédiger. rédigé à la chaîne des articles de propagande bourrés de fautes d'orthographe publiés dans un journal créé de toutes pièces à la gloire de leur candidat. Ils ont couvert les panneaux d'affichage de la ville de publicité électorale illégale. Ils ont acheté du temps d'antenne sur tous les grands médias de Lille. Ils ont payé des jeunes pour assister aux meetings, payé des journalistes pour couvrir la campagne de Razonar Mampian. Ils ont même recruté un obscur prédicateur religieux pour semer la zizanie, nous dit-on, dans les rangs de l'opposition. Le tout sous les yeux effarés des malgaches qui avaient bien entendu parler de l'ingérence russe dans la campagne américaine 2 ans plus tôt et qui voyaient la même chose se reproduire chez eux sans même essayer de se dissimuler. D'ailleurs, derrière ces deux opérations, la malgache et l'américaine, nous dit le New York Times, on retrouve le même homme, Yevgeny Prigojine, un proche de Vladimir Poutine qui pilote en sous-main toute la stratégie d'influence russe en Afrique. Mais il reste une question, pourquoi donc les Russes se sont-ils lancés dans cette campagne malgache alors qu'ils n'ont pas à première vue d'intérêt majeur sur la grande île? L'oligarque de l'ombre Prigojine avait bien acheté avant l'élection une mine malgache, mais rien de comparable aux enjeux économiques russes sur le continent africain. On voit là tout de même, nous disent les auteurs de l'enquête, que les Russes font feu de tout bois en matière d'influence en Afrique. Par contre, un détail tout de même, la campagne de manipulation électorale à Madagascar n'a pas du tout fonctionné. Le président sortant a été sèchement battu, comme quoi les grosses ficelles ne fonctionnent pas toujours.
Merci Camille Magnard.